David Copperfield, livre 2, chapitre 8, Dissolution de société. Je m'empressais de mettre immédiatement à exécution le plan que j'avais formé relativement au débat du Parlement. C'était un des fers de ma forge qu'il fallait battre tandis qu'il était chaud, et je me mis à l'œuvre avec une persévérance qu'il doit m'être permis d'admirer. J'achetai un traité célèbre sur l'art de la sténographie. Il me coûta bien 10 bons shillings, et je me plongeai dans un océan de difficultés qui, au bout de quelques semaines, m'avait rendu presque fou. Tous les changements que pouvait apporter un de ces petits accents qui, placés d'une façon, signifiaient telle chose et telle autre dans une autre position, tous ces caprices merveilleux figurés par des cercles indéchiffrables, les conséquences énormes d'une figure grosse comme une patte de mouche, les terribles effets d'une courbe mal placée, ne me troublaient pas seulement pendant mes heures d'étude, elles me poursuivaient même pendant mes heures de sommeil. Quand je fus enfin venu à bout de m'orienter tant bien que mal, à tâtons au milieu de ce labyrinthe, et de posséder à peu près l'alphabet, qui à lui seul était tout un temple de hiéroglyphes égyptiens, je fus assailli après cela par une procession d'horreurs nouvelles appelées des caractères arbitraires. Jamais je n'ai vu de caractère aussi despotique. Par exemple, il voulait absolument qu'une ligne plus fine, qu'une toile d'araignée, signifiât « attente », et qu'une espèce de chandelle romaine se traduisît par « désavantageux ». À mesure que je parvenais à me fourrer dans la tête ce misérable grimoire, je m'apercevais que je ne savais plus du tout mon commencement. Je le rapprenais donc, et alors j'oubliais le reste. Si je cherchais à le retrouver, c'était aux dépens de quelque autre bribe du système qui m'échappait. En un mot, c'était navrant. C'est-à-dire, cela m'aurait paru navrant si Dora n'avait été là pour me rendre du courage. Dora, ancre fidèle de ma barque agitée par la tempête. Chaque progrès dans le système me semblait un chêne noueux à jeter à bas dans la forêt des difficultés, et je me sentais à les abattre l'un après l'autre avec un tel redoublement d'énergie qu'au bout de 3 ou 4 mois, je me crus en état de tenter une épreuve sur un de nos braillards de la Chambre des communes. Jamais je n'oublierai comment, pour mon début, mon braillard s'était déjà rassis avant que j'eusse seulement commencé et laissa mon crayon imbécile se trémousser sur le papier comme s'il avait des convulsions. Cela ne pouvait pas aller. C'était bien évident, j'avais visé trop haut, il fallait en rabattre. Je recourus à Traddles pour quelques conseils. Il me proposa de me dicter des discours tout doucement, en s'arrêtant de temps en temps, pour me faciliter la chose. J'acceptai son offre avec la plus vive reconnaissance, et tous les soirs, pendant bien longtemps, nous eûmes dans Buckingham Street une sorte de parlement privé lorsque j'étais revenu de chez le docteur. Je voudrais bien voir quelque part un parlement de cette espèce. Ma tante et M. Dick représentaient le gouvernement ou l'opposition, suivant les circonstances, et Traddles, à l'aide de l'orateur d'Enfield ou d'un volume des débats parlementaires, les accablait des plus foudroyantes invectives. Debout, à côté de la table, une main sur le volume pour ne pas perdre sa page et le bras droit levé au-devant de sa tête, Traddles représentant alternativement M. Pitt, M. Fox, M. Sheridan, M. Burke, Lord Castlereagh, le vicomte Sidmouth ou M. Canning, se livrait à la plus violente colère. Il accusait ma tante et M. Dick d'immoralité et de corruption. Et moi, assis non loin de lui, mon cahier de notes à la main, j'essoufflais ma plume à le suivre dans ses déclamations. L'inconstance et la légèreté de Traddles ne sauraient être surpassées par aucune politique au monde. En 8 jours, il avait embrassé toutes les opinions les plus différentes. Il avait arboré 20 drapeaux. Ma tante, immobile comme un chancelier de l'échiquier, lançait parfois une interruption. « Très bien !» ou « Non !» ou « Oh !» quand le texte semblait l'exiger. Et Monsieur Dick, véritable type du gentilhomme campagnard, lui servait immédiatement d'écho. Mais Monsieur Dick fut accusé durant sa carrière parlementaire de choses si odieuses et on lui en montra dans l'avenir de si redoutables conséquences qu'il finit par en être effrayé. Je crois même qu'il finit par se persuader qu'il fallait qu'il eût décidément commis quelque chose qui devait amener la ruine de la constitution de la Grande-Bretagne et de la décadence inévitable du pays. Bien souvent, nous continuions nos débats jusqu'à ce que la pendule sonnât minuit et que les bougies fussent brûlées jusqu'au bout. Le résultat de tant de travaux fut que je finis par suivre assez bien Traddles. Il ne manquait plus qu'une chose à mon triomphe, c'était de reconnaître après ce que signifiaient mes notes. Mais je n'en avais pas la moindre idée. Une fois qu'elles étaient écrites, loin de pouvoir en rétablir le sens, c'était comme si j'avais copié les inscriptions chinoises qu'on trouve sur les caisses de thé ou les lettres d'or qu'on peut lire sur toutes les grandes fioles rouges et vertes qui ornent la boutique des apothicaires. Je n'avais autre chose à faire que de me remettre courageusement à l'œuvre. C'était bien dur, mais je recommençais, en dépit de mon ennemi, à parcourir de nouveau laborieusement et méthodiquement tout le chemin que j'avais déjà fait, marchant à pas de tortue, m'arrêtant pour examiner minutieusement la plus petite marque et faisant des efforts désespérés pour déchiffrer ses caractères perfides partout où je les rencontrais. J'étais très exacte à mon bureau, très exacte aussi chez le docteur. Enfin, je travaillais comme un vrai cheval de fiacre. Un jour que je me rendais à la Chambre des communes, comme à l'ordinaire, je trouvais sur le seuil de la porte M. Spenlow, l'air très grave et se parlant à lui-même. Comme il se plaignait souvent de maux de tête et qu'il avait le cou très court avec des cols de chemise trop empesés, j'eus d'abord l'idée qu'il avait le cerveau un peu pris, mais je fus bientôt rassurée sur ce point. Au lieu de me rendre mon « bonjour monsieur » avec son affabilité accoutumée, il me regarda d'un air hautain et cérémonieux, et m'engagea froidement à le suivre dans un certain café qui, dans ce temps-là, donnait sur les Doctor's Commons, dans la petite arcade près du cimetière de Saint-Paul. Je lui obéis, l'esprit troublé, je me sentais couvert d'une sueur éruptive, comme si toutes mes appréhensions allaient aboutir à la peau. Il marchait devant moi, le passage étant fort étroit, et la façon dont il portait la tête ne me présageait rien de bon. Je me doutais qu'il avait découvert mes sentiments pour ma chère petite Dora. Si je ne l'avais pas deviné en le suivant pour ne rendre au café dont j'ai parlé, je n'aurais pu me méprendre longtemps sur le fait dont il s'agissait, lorsqu'après être montée dans une pièce au premier étage, j'y trouvais Miss Merton appuyée sur une sorte de buffet où étaient rangés divers carafons contenant des citrons et deux de ces boîtes extraordinaires toutes pleines de coins et de recoins où jadis on piquait les couteaux et les fourchettes, mais qui, heureusement pour l'humanité, sont à présent entièrement passés de mode. Miss Merton me tendit ses ongles glacés et se rassit de l'air le plus austère. Monsieur Spenlow ferma la porte, me fit signe de prendre une chaise et se plaça debout sur le tapis devant la cheminée. « Ayez la bonté, Miss Merton, dit Monsieur Spenlow, de montrer à Monsieur Copperfield ce que contient votre sac. » Je crois vraiment que c'était identiquement le même ridicule à fermoir d'acier que je lui avais vu dans mon enfance. Les lèvres aussi serrées que le fermoir pouvaient l'être, Miss Merton poussa le ressort, entr'ouvit un peu la bouche du même coup, tira de son sac ma dernière lettre à Dora, toute pleine des expressions de la plus tendre affection. « Je crois que c'est votre écriture, Monsieur Copperfield, » dit Monsieur Spenlow. J'avais le front brûlant, et la voix qui résonna à mes oreilles ne ressemblait guère à la mienne lorsque je répondis « Oui, monsieur. » « Si je ne me trompe, » dit Monsieur Spenlow, tandis que Miss Merton tirait de son sac un paquet de lettres attachées avec un charmant petit ruban bleu. « Ces lettres sont aussi de votre écriture, Monsieur Copperfield. » Je pris le paquet avec un sentiment de désolation. Et en voyant d'un coup d'œil au haut des pages, « Ma bien-aimée Dora, mon ange chéri, ma chère petite. » Je rougis profondément et j'inclinai la tête. « Non, merci, » me dit froidement M. Spenlow, comme je lui tendais machinalement le paquet de lettres. « Je ne veux pas vous en priver. Miss Marston, soyez assez bonne pour continuer. » Cette aimable créature, après avoir un moment réfléchi, les yeux baissés sur le papier, raconta ce qui suit avec l'onction la plus glaciale. Je dois avouer que depuis quelque temps déjà, j'avais mes soupçons sur Miss Spenlow en ce qui concerne David Copperfield. J'avais l'œil sur Miss Spenlow et sur David Copperfield la première fois qu'ils se virent, et l'impression que j'en conçus alors ne fut pas agréable. La dépravation du cœur humain est telle. « Vous me rendrez service, madame, » fit remarquer M. Spenlow, « en vous bornant à raconter les faits. » Miss Marston baissa les yeux, hocha la tête comme pour protester contre cette interruption inconvenante, puis reprit d'un air de dignité offensée. « Alors, si je dois me borner à raconter les faits, je le dirai aussi brièvement que possible, puisque c'est là tout ce que l'on me demande. Je disais donc, monsieur, que depuis quelque temps déjà, j'avais mes soupçons sur Miss Spenlow et sur David Copperfield. J'ai souvent essayé, mais en vain, d'en trouver des preuves décisives. C'est ce qui m'a empêché d'en faire confidence au père de Miss Spenlow, et elle le regarda d'un air sévère. Je savais combien, en pareil cas, on est peu disposé à croire avec bienveillance ceux qui remplissent en cela fidèlement leurs devoirs. M. Spenlow semblait anéanti par la noble sévérité du ton de Miss Marston. Il fit de la main un geste de conciliation. Lors de mon retour à Norwood, après m'être absentée à l'occasion du mariage de mon frère, poursuivit Miss Marston d'un ton dédaigneux, je crus m'apercevoir que la conduite de Miss Spenlow, également de retour d'une visite chez son amie Miss Mills, que sa conduite, dis-je, donnait plus de fondement à mes soupçons. Je la surveillais donc de plus près. Ma pauvre, ma chère petite Dora, qu'elle était loin de se douter que ses yeux de dragon étaient fixés sur elle. Cependant, reprit Miss Marston, c'est hier au soir seulement que j'en ai acquis la preuve positive. J'étais d'avis que Miss Spenlow recevait trop de lettres de son amie Miss Mills. Mais Miss Mills était son amie du plein consentement de son père. Encore un coup d'œil bien amer à M. Spenlow. Et je n'avais donc rien à dire. Puisqu'il n'est pas permis de faire allusion à la dépravation naturelle du cœur humain, il faut du moins qu'on me permette de parler d'une confiance mal placée. « À la bonne heure !» murmura M. Spenlow en forme d'apologie. « Hier au soir, » reprit Miss Marston, « nous venions de prendre le thé, lorsque je remarquai que le petit chien courait, bondissait, grognait dans le salon, en mordillant quelque chose. Je dis à Miss Spenlow, « Dora, qu'est-ce que ce papier que votre chien tient dans sa gueule ?» Miss Spenlow tâta immédiatement sa ceinture, poussa un cri et courut vers le chien. Je l'arrêtai en lui disant, « Dora, mon amour, permettez. »« Oh, Jip, misérable épagneul, c'est donc toi qui es l'auteur de tant d'infortunes. » Miss Spenlow essaya, dit Miss Marston, de me corrompre à force de baisers, de nécessaires à ouvrage, de petits bijoux, de présents de toutes sortes. Je passe rapidement là-dessus. Le petit chien courut se réfugier sous le canapé et j'eus beaucoup de peine à l'en faire sortir avec l'aide des pincettes. Une fois tirée de là-dessous, la lettre était toujours dans sa gueule et quand j'essayais de la lui arracher, au risque de me faire mordre, il tenait le papier si bien serré entre ses dents que tout ce que je pouvais faire, c'était d'enlever le chien en l'air à la suite de ce précieux document. J'ai pourtant fini par m'en emparer. Après l'avoir lu, j'ai dit à Miss Spenlow qu'elle devait avoir en sa possession d'autres lettres de même nature. Et j'ai enfin obtenu d'elle le paquet qui est maintenant entre les mains de David Copperfield. Elle se tut, et après avoir fermé son sac, elle ferma la bouche, de l'air d'une personne résolue à se laisser briser plutôt que de ployer. Vous venez d'entendre Miss Marston, dit Monsieur Spenlow en se tournant vers moi. Je désire savoir, Monsieur Copperfield, si vous avez quelque chose à répondre. Le peu de dignité dont j'aurais pu essayer de me parer était malheureusement fort compromis par le tableau qui venait sans cesse se présenter à mon esprit. Je voyais celle que j'adorais, ma charmante petite Dora, pleurant et sanglotant toute la nuit. Je me la représentais seule, effrayée, malheureuse, ou bien je songeais qu'elle avait supplié, mais en vain, cette mégère au cœur de rocher de lui pardonner, qu'elle lui avait offert des baisers, des nécessaires à ouvrage, des bijoux, le tout en pure perte. Enfin, qu'elle était au désespoir, et tout cela pour moi. Je tremblais donc d'émotion et de chagrin, bien que je fisse tout mon possible pour le cacher. « Je n'ai rien à dire, monsieur, » repris-je, « si ce n'est que je suis le seul à blâmer. Dora, Miss Spenlow, je vous prie, » repartit son père avec majesté. « A été entraînée par moi, » continuai-je sans répéter après monsieur Spenlow ce nom froid et cérémonieux, à me promettre de vous cacher notre affection, et je le regrette amèrement. « Vous avez eu le plus grand tort, monsieur, » me dit monsieur Spenlow, en se promenant de long en large sur le tapis et en gesticulant avec tout son corps, au lieu de remuer seulement la tête, à cause de la raideur combinée de sa cravate et de son épine dorsale. Vous avez commis une action frauduleuse et immorale, monsieur Copperfield. Quand je reçois chez moi un gentleman, qu'il ait 19 ou 29 ou 99 ans, je le reçois avec pleine confiance. S'il abuse de ma confiance, il commet une action malhonnête, monsieur Copperfield. Je ne le vois que trop maintenant, monsieur. Vous pouvez en être sûr, repris-je. Mais je ne le croyais pas auparavant. En vérité, monsieur Spenlow, dans toute la sincérité de mon cœur, je ne le croyais pas auparavant. J'aime tellement Miss Spenlow.
Allons donc, quelle sottise, dit monsieur Spenlow en rougissant.
Ne venez pas me dire en face que vous aimez ma fille, monsieur Copperfield. Mais monsieur, comment pourrais-je défendre ma conduite si cela n'était pas ? Répondis-je du ton le plus humble.
Comment pouvez-vous défendre votre conduite si cela est, monsieur ? Dit monsieur Spenlow en s'arrêtant tout court sur le tapis. Avez-vous réfléchi à votre âge et à l'âge de ma fille, monsieur Copperfield ? Savez-vous ce que vous avez fait en venant détruire la confiance qui devait exister entre ma fille et moi ? Avez-vous songé au rang que ma fille occupe dans le monde ? Aux projets que j'ai pu former pour son avenir, aux intentions que je puis exprimer en sa faveur dans mon testament. Avez-vous songé à tout cela, monsieur Copperfield ?
Bien peu, monsieur, j'en ai peur, répondis-je d'un ton humble et triste. Mais je vous prie de croire que je n'ai point méconnu ma propre position dans le monde. Quand je vous en ai parlé, nous étions déjà engagés l'un à l'autre.
« Je vous prie de ne pas prononcer ce mot devant moi, monsieur Copperfield. »
Et au milieu de mon désespoir, je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il ressemblait tout à fait à Polichinelle par la manière dont il frappait tour à tour ses mains l'une contre l'autre avec la plus grande énergie. L'immobile Miss Marston fit entendre un rire sec et dédaigneux. Lorsque je vous ai expliqué le changement qui était survenu dans ma situation, monsieur, repris-je, voulant changer le mot qui l'avait choqué, il y avait déjà par ma faute un secret entre Miss Spenlow et moi. Depuis que ma position a changé, j'ai lutté. J'ai fait tout mon possible pour l'améliorer. Je suis sûre d'y parvenir un jour. Voulez-vous me donner du temps ? Nous sommes si jeunes, elle et moi, monsieur.
Vous avez raison, dit monsieur Spenlow en hochant plusieurs fois la tête et en fronçant le sourcil. Vous êtes tous deux très jeunes. Tout cela, c'est des bêtises. Il faut que cela finisse. Prenez ces lettres et jetez-les au feu. Rendez-moi les lettres de Miss Spenlow, que je les jette au feu de mon côté. Et bien que nous devions, à l'avenir, nous borner à nous rencontrer ici ou à la cour, il sera convenu que nous ne parlerons pas du passé. Voyons, monsieur Copperfield, vous ne manquez pas de raison, et vous voyez bien que c'est la seule chose raisonnable à faire. Non, je ne pouvais pas être de cet avis. Je le regrettais beaucoup, mais il y avait une considération qui l'emportait sur la raison. L'amour passe avant tout, et j'aimais Dora à la folie, et Dora m'aimait. Je ne le dis pas tout à fait dans ces termes, mais je le fis comprendre, et j'y étais bien résolue. Je ne m'inquiétais guère de savoir si je jouais en cela un rôle ridicule, mais je sais que j'étais bien résolue. « Très bien, monsieur Copperfield, » dit monsieur Spenlow. « J'userai donc de mon influence auprès de ma fille. » Miss Murston fit entendre un son expressif, une longue aspiration, qui n'était ni un soupir, ni un gémissement, mais qui tenait des deux, comme pour faire sentir à monsieur Spenlow que c'était par là qu'il aurait dû commencer. « J'userai de mon influence auprès de ma fille, » dit monsieur Spenlow, enhardi par cette approbation. « Refusez-vous de prendre ces lettres, monsieur Copperfield ?» J'avais posé le paquet sur la table. Oui, je le refusais. J'espérais qu'il voudrait bien m'excuser, mais il m'était impossible de recevoir ces lettres de la main de Miss Murston. « Ni des miennes ?» dit monsieur Spenlow. « Pas davantage, » répondis-je avec le plus profond respect. « À merveille, » dit monsieur Spenlow. Il y eut un moment de silence. Je ne savais si je devais rester ou m'en aller. À la fin, je me dirigeais tranquillement vers la porte avec l'intention de lui dire que je croyais répondre à ses sentiments en me retirant. Il m'arrêta pour me dire d'un air sérieux et presque dévot, en enfonçant ses mains dans les poches de son batelot, et c'était bien tout au plus s'il pouvait les y faire rentrer. « Vous savez probablement, monsieur Copperfield, que je ne suis pas absolument dépourvue des biens de ce monde et que ma fille est ma plus chère et ma plus proche parente. » Je lui répondis avec précipitation que j'espérais que si un amour passionné m'avait fait commettre une erreur, il ne me supposait pas pour cela une âme avide et mercenaire. « Ce n'est pas de cela que je parle, » dit monsieur Spenlow. « Il vaudrait mieux pour vous et pour nous tous, monsieur Copperfield, que vous fussiez un peu plus mercenaire. Je veux dire que vous fussiez plus prudent et moins facile à entraîner à ces folies de jeunesse. Mais je vous le répète, à un tout autre point de vue, vous savez probablement que j'ai quelque fortune à laisser à ma fille. » Je répondis que je le supposais bien. « Et vous ne pouvez pas croire qu'en présence des exemples qu'on voit ici tous les jours dans cette cour de l'étrange négligence des hommes pour les arrangements testamentaires, car c'est peut-être le cas où on leur rencontre les plus étranges révélations de la légèreté humaine, vous ne pouvez pas croire que moi, je n'ai pas fait mes dispositions. » J'inclinai la tête en signe d'assentiment. « Je ne souffrirai pas, » dit monsieur Spenlow en se balançant alternativement sur la pointe des pieds ou sur les talons, tandis qu'il hochait lentement la tête, comme pour donner plus de poids à ses pieuses observations. « Je ne souffrirai pas que les dispositions que j'ai cru devoir prendre pour mon enfant soient en rien modifiées par une folie de jeunesse, car c'est une vraie folie, tranchons le mot, une sottise. Dans quelque temps, tout cela ne pèsera pas plus qu'une plume. Mais il serait possible, il se pourrait, que si cette sottise n'était pas complètement abandonnée, je me visse obligée, dans un moment d'anxiété, à prendre mes précautions pour annuler les conséquences de quelque mariage imprudent. J'espère, monsieur Copperfield, que vous ne me forcerez pas à rouvrir, même pour un quart d'heure, cette page close dans le livre de la vie, et à déranger, même pour un quart d'heure, de graves affaires réglées depuis longtemps déjà. » Il y avait dans toute sa manière une sérénité, une tranquillité, un calme qui me touchait profondément. Il était si paisible et si résigné, après avoir mis ordre à ses affaires
et régler ses dispositions dernières comme un papier de musique, qu'on voyait bien qu'il ne pouvait y penser lui-même sans attendrissement. Je crois même, en vérité, avoir vu monter du fond de sa sensibilité à cette pensée quelques larmes involontaires dans ses yeux. Mais qu'y faire ? Je ne pouvais pas manquer à Dora et à mon propre cœur. Il me dit qu'il me donnait 8 jours pour réfléchir. Pouvais-je répondre que je ne voulais pas y réfléchir pendant 8 jours ? Mais aussi, ne devais-je pas croire que toutes les semaines du monde ne changeraient rien à la violence de mon amour ? Vous ferez bien d'en causer avec Miss Trotwood ou avec quelque autre personne qui connaisse la vie, me dit M. Spenlow en redressant sa cravate. Prenez une semaine, M. Copperfield. Je me soumis et je me retirai tout en donnant à ma physionomie l'expression d'un abattement désespéré qui ne pouvait changer en rien mon inébranlable constance. Les sourcils de Miss Murston m'accompagnèrent jusqu'à la porte. Je dis ses sourcils plutôt que ses yeux parce qu'ils tenaient beaucoup plus de place dans son visage. Elle avait exactement la même figure que jadis lorsque, dans notre petit salon à Blunderstone, je récitais mes leçons en sa présence. Avec un peu de bonne volonté, j'aurais pu croire, par souvenir, que le poids qui oppressait mon cœur, c'était encore cet abominable alphabet d'autrefois, avec ses vignettes ovales, que je comparais de mon enfance à des verres de lunettes. Quand j'arrivais à mon bureau, je me cachais le visage dans mes mains, et là, devant mon pupitre, assis dans mon coin, sans apercevoir ni le vieux Tiffey ni mes autres camarades, je me mis à réfléchir au tremblement de terre qui venait d'avoir lieu sous mes pieds. Et dans l'amertume de mon âme, je maudissais Jip, et j'étais si inquiet de Dora que je me demande encore comment je ne pris pas mon chapeau pour me diriger comme un fou vers Norwood. L'idée qu'on la tourmentait, qu'on la faisait pleurer, que je n'étais pas là pour la consoler, m'était devenue tellement odieuse que je me mis à écrire une lettre insensée à M. Spenlow, où je le conjurais de ne pas faire peser sur elle les conséquences de ma cruelle destinée. Je le suppliais d'épargner cette douce nature, de ne pas briser une fleur si fragile. Bref, si j'ai bonne mémoire, je lui parlais comme si, au lieu d'être le père de Dora, il avait été un ogre ou un croque-mitaine. Je la cachetais et je la posais sur son pupitre avant son retour. Quand il entra, je le vis par la porte de son cabinet, qui était entrebâillée, prendre ma lettre et l'ouvrir. Il ne m'en parla pas dans la matinée, mais le soir, avant de partir, il m'appela et me dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter du bonheur de sa fille. Il lui avait dit simplement que c'était une bêtise et il ne comptait plus lui en reparler. Il se croyait un père indulgent, et il avait raison. Je n'avais donc nul besoin de m'inquiéter à ce sujet. Vous pourriez m'obliger, par votre folie ou votre obstination, monsieur Copperfield, ajouta-t-il, à éloigner pendant quelque temps ma fille de moi. Mais j'ai de vous une meilleure opinion. J'espère que dans quelques jours vous serez plus raisonnable. Quant à Miss Murston, car j'avais parlé d'elle dans ma lettre, je respecte la vigilance de cette dame, et je lui en suis reconnaissant, mais je lui ai expressément recommandé d'éviter ce sujet. La seule chose que je désire, monsieur Copperfield, c'est qu'il n'en soit plus question. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'oublier. Tout ce que j'avais à faire, tout ! Dans un billet que j'écrivis à Miss Mills, je relevais ce mot avec amertume. Tout ce que j'avais à faire, disais-je avec une sombre dérision, c'était d'oublier Dora. C'était là tout. Ne semblait-il pas que ce ne fût rien ? Je suppliais Miss Mills de me permettre de la voir ce soir-là même. Si Miss Mills ne pouvait y consentir, je lui demandais de me recevoir en cachette dans la pièce de derrière où on faisait la lessive. Je lui déclarais que ma raison chancelait sur sa base et qu'elle seule pouvait la remettre dans son assiette. Je finissais, dans mon égarement, par me dire à elle pour la vie, avec ma signature au bout, et en relisant ma lettre avant de la confier à un commissionnaire, je ne pus pas m'empêcher moi-même de lui trouver beaucoup de rapports avec le style de M. Micawber.
Je l'envoyais pourtant.
Le soir, je me dirigeais vers la rue de Miss Mills et je l'arpentais dans tous les sens jusqu'à ce que sa servante vînt m'avertir, à la dérobée, de la suivre par un chemin détourné. J'ai eu depuis des raisons de croire qu'il n'y avait aucun motif de m'empêcher d'entrer par la grande porte, ni même d'être reçue dans le salon, si ce n'est que Miss Mills aimait tout ce qui avait un air de mystère. Une fois dans l'arrière-cuisine, je m'abandonnais à tout mon désespoir. Si j'étais venue là dans l'intention de me rendre ridicule, je suis bien sûre d'y avoir réussi. Miss Mills avait reçu de Dora un billet écrit à la hâte, où elle lui disait que tout était découvert. Elle ajoutait « Oh, venez me trouver, Julie, je vous en supplie !» Mais Miss Mills n'avait pas encore été la voir, dans la crainte que sa visite ne fût pas du goût des autorités supérieures. Nous étions tous comme des voyageurs égarés dans le désert du Sahara. Miss Mills avait une prodigieuse volubilité et elle s'y complaisait. Je ne pouvais m'empêcher de sentir, tandis qu'elle mêlait ses larmes aux miennes, que nos afflictions étaient pour elle une bonne occasion. Elle les choyait, je peux le dire, pour s'en faire du bien. Elle me faisait remarquer qu'un abîme immense venait de s'ouvrir entre Dora et moi, et que l'amour pouvait seul le combler avec son arc-en-ciel. L'amour était fait pour faire souffrir dans ce bas monde. Cela avait toujours été et cela serait toujours. « N'importe, reprenait-elle. Les cœurs ne se laissent pas enchaîner longtemps par ces toiles d'araignée. Ils sauront bientôt les rompre et l'amour sera vengé. » Tout cela n'était pas très consolant. Mais Miss Mills ne voulait pas encourager des espérances mensongères. Elle me renvoya bien plus malheureux que je n'étais en arrivant, ce qui ne m'empêcha pas de lui dire, et ce qu'il y a de plus fort, c'est que je le pensais, que je lui avais une profonde reconnaissance et que je voyais bien qu'elle était véritablement notre amie. Il fut résolu que le lendemain matin, elle irait trouver Dora et qu'elle inventerait quelques moyens de l'assurer soit par un mot, soit par un regard, de toute mon affection et de mon désespoir. Nous nous séparâmes, accablés de douleur, comme Miss Mills devait être satisfaite. En arrivant chez ma tante, je lui confiais tout. Et en dépit de ce qu'elle put me dire, je me couchais au désespoir. Je me levais au désespoir et je sortis au désespoir. C'était le samedi matin. Je me rendis immédiatement à mon bureau. Je fus surpris en y arrivant de voir les garçons de caisse devant la porte et causant entre eux. Quelques passants regardaient les fenêtres qui étaient toutes fermées. Je pressai le pas et, surpris de ce que je voyais, j'entrai en toute hâte. Les employés étaient à leur poste, mais personne ne travaillait. Le vieux Tiffet était assis, peut-être pour la première fois de sa vie, sur la chaise d'un de ses collègues, et il n'avait pas même accroché son chapeau. « Quel affreux malheur, monsieur Copperfield !» me dit-il au moment où j'entrais. « Quoi donc ? » m'écriai-je. « Et qu'est-ce qu'il y a ?»« Vous ne savez donc pas ?» cria Tiffet, et tout le monde m'entoura. « Non ! » dis-je en les regardant tous l'un après l'autre. « Monsieur Spenlow !» dit Tiffet. « Eh bien, il est mort !» Je crus que la terre me croulait sous les pieds. Je chancelai. Un des commis me soutint dans ses bras. On me fit asseoir. On dénoua ma cravate. On me donna un verre d'eau. Je n'ai aucune idée du temps que tout cela dura. « Mort !» répétai-je. « Il a dîné en ville hier et il conduisait lui-même son phaéton, » dit Tiffet. « Il avait renvoyé son groom par la diligence, comme il faisait quelquefois, vous savez. » « Eh bien, le phaéton est arrivé vide. Les chevaux se sont arrêtés à la porte de l'écurie. Le palefrenier est accouru avec une lanterne. Il n'y avait personne dans la voiture. »« Est-ce que les chevaux s'étaient emportés ?»« Ils n'avaient pas chaud, » dit Tiffet en mettant ses lunettes. « Pas plus chaud, dit-on, qu'à l'ordinaire quand ils rentrent. Les guides étaient brisées, mais elles avaient évidemment traîné par terre. Toute la maison a été aussitôt sur pied. » Trois domestiques ont parcouru la route qu'ils avaient suivie. On l'a retrouvée à 1 mile de la maison.
À plus d'un mille, monsieur Tiffet, insinua un jeune employé. Croyez-vous ? Vous avez peut-être raison, dit Tiffet. À plus d'un mille, pas loin de l'église. Il était étendu, le visage contre terre, une partie de son corps reposait sur la grande route et une autre sur la contre-allée. Personne ne sait s'il a eu une attaque, qu'il a fait tomber de voiture, ou s'il en est descendu parce qu'il se sentait indisposé. On ne sait même pas s'il était tout à fait mort quand on l'a retrouvé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était parfaitement insensible. Peut-être respirait-il encore, mais il n'a pas prononcé une seule parole. On s'est procuré des médecins aussitôt qu'on a pu, mais tout a été inutile. Comment dépeindre ma situation d'esprit à cette nouvelle ? Tout le monde comprend assez mon trouble en apprenant un tel événement, et si subit, dont la victime était précisément l'homme avec lequel je venais d'avoir une discussion. Ce vide soudain qu'il laissait dans sa chambre, encore occupée la veille, où sa chaise et sa table avaient l'air de l'attendre, ces lignes tracées par lui de sa main et laissées sur son bureau comme les dernières traces du spectre disparu, l'impossibilité de le séparer dans notre pensée du lieu où nous étions, au point que quand la porte s'ouvrait, on s'attendait à le voir entrer, le silence morne et le désœuvrement de ses bureaux, l'insatiable avidité de nos gens à en parler et celle des gens du dehors qui ne faisaient qu'entrer et sortir toute la journée pour se gorger de quelques détails nouveaux. Quel spectacle navrant! Mais ce que je ne saurais décrire, c'est comment, dans les replis cachés de mon cœur, je ressentais une secrète jalousie de la mort même. Comment je lui reprochais de me refouler au second plan dans les pensées de Dora. Comment l'humeur injuste et tyrannique qui me possédait me rendait envieux même de son chagrin. Comment je souffrais de la pensée que d'autres pourraient la consoler, qu'elle pleurait loin de moi. Enfin, comment j'étais dominée par un désir avare et égoïste de la séparer du monde entier, à mon profit, pour être moi seule, tout pour elle, dans ce moment si mal choisi pour ne songer qu'à moi. Dans le trouble de cette situation d'esprit, j'espère que je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti et que d'autres pourront le comprendre. Je me rendis le soir même à Norwood. J'appris par un domestique que Miss Mills était arrivée. Je lui écrivis une lettre dont je fis mettre l'adresse par ma tante. Je déplorais de tout mon cœur la mort si inattendue de Monsieur Spenlow, et en l'écrivant, je versais des larmes. Je la suppliais de dire à Dora, si elle était en état de l'entendre, qu'il m'avait traitée avec une bonté et une bienveillance infinie, et n'avait prononcé le nom de sa fille qu'avec la plus grande tendresse, sans l'ombre d'un reproche. Je sais bien que c'était encore pur égoïsme de ma part. C'était un moyen de faire parvenir mon nom jusqu'à elle, mais je cherchais à me faire accroire que c'était un acte de justice envers sa mémoire, et peut-être l'ai-je cru. Ma tante reçut le lendemain quelques lignes en réponse. L'adresse était pour elle, mais la lettre était pour moi. Dora était accablée de douleur, et quand son amie lui avait demandé s'il fallait m'envoyer cette adresse, elle s'était écriée en pleurant, car elle pleurait sans interruption.
« Oh, mon cher papa! Mon pauvre papa !»
Mais elle n'avait pas dit non, ce qui me fit le plus grand plaisir. Monsieur Jorkins vint au bureau quelques jours après. Il était resté à Norwood depuis l'événement. Tiffet et lui restèrent enfermés ensemble quelque temps, puis Tiffet ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. « Oh !» dit Monsieur Jorkins. « Monsieur Copperfield, nous allons, Monsieur Tiffet et moi, examiner le pupitre, les tiroirs et tous les papiers du défunt pour mettre les scellés sur ses papiers personnels et chercher son testament. Nous n'en trouvons de traces nulle part. Soyez assez bons pour nous aider. » J'étais depuis l'événement dans des transes mortelles pour savoir dans quelle situation se retrouverait Madora, quel serait son tuteur, etc., etc. Et la proposition de Monsieur Jorkins me donnait l'occasion de dissiper mes doutes. Nous nous mîmes tout de suite à l'œuvre. Monsieur Jorkins ouvrait les pupitres et les tiroirs et nous en sortions tous les papiers. Nous placions d'un côté tous ceux du bureau, de l'autre
tous ceux qui étaient personnels aux défunts, et ils n'étaient pas nombreux. Tout se passait avec la plus grande gravité, et quand nous trouvions un cachet ou un porte-crayon ou une bague ou les autres menus objets à son usage personnel, nous baissions instinctivement la voix. Nous avions déjà scellé plusieurs paquets et nous continuions au milieu du silence et de la poussière quand M. Jorkins me dit, en se servant exactement des termes dans lesquels son associé M. Spenlow nous avait jadis parlé de lui, « Monsieur Spenlow n'était pas homme à se laisser facilement détourner des traditions et des sentiers battus. Vous le connaissiez. Eh bien, je suis portée à croire qu'il n'avait pas fait de testament. »« Oh, je suis sûre du contraire, » dis-je. Tous deux s'arrêtèrent pour me regarder. « Le jour où je l'ai vu pour la dernière fois, » repris-je, « il m'a dit qu'il avait fait un testament et qu'il avait depuis longtemps mis ordre à ses affaires. » Monsieur Jorkins et le vieux Tiffy secouèrent la tête d'un commun accord. « Cela ne promet rien de bon, » dit Tiffy. « Rien de bon du tout, » dit Monsieur Jorkins. « Vous ne doutez pourtant pas, » repartis-je. « Mon bon Monsieur Copperfield, » me dit Tiffy, et il posa la main sur mon bras, tout en fermant les yeux et en secouant la tête. « Si vous aviez été aussi longtemps que moi dans cette étude, vous sauriez qu'il n'y a point de sujet sur lequel les hommes soient aussi imprévoyants et pour lequel on doive moins les croire sur parole. Mais en vérité, ce sont ses propres expressions, » répliquai-je avec insistance. « Voilà qui est décisif, » reprit Tiffy. « Mon opinion, alors, c'est qu'il n'y a pas de testament. » Cela me parut d'abord la chose du monde la plus bizarre. Mais le fait est qu'il n'y avait pas de testament. Les papiers ne fournissaient pas le moindre indice qu'il eût voulu jamais en faire un. On ne trouva ni le moindre projet, ni le moindre mémorandum qui annonça qu'il en eût jamais eu l'intention. Ce qui m'étonna presque autant, c'est que ses affaires étaient dans le plus grand désordre. On ne pouvait se rendre compte ni de ce qu'il devait, ni de ce qu'il avait payé, ni de ce qu'il possédait. Il était probable que depuis des années, il ne s'en faisait pas lui-même la moindre idée. Peu à peu, on découvrit que, poussé par le désir de briller parmi les procureurs des Doctors Commons, il avait dépensé plus que le revenu de son étude, qui ne s'élevait pas bien haut, et qu'il avait fait une brèche importante à ses ressources personnelles, qui probablement n'avaient jamais été bien considérables. On fit une vente de tout le mobilier de Norwood. On souloua la maison et Tiffy me dit, sans savoir tout l'intérêt que je prenais à la chose, qu'une fois les dettes du défunt payées et déductions faites de la part de ses associés dans l'étude, il ne donnerait pas de tout le reste 1000 livres sterling. Je n'appris tout cela qu'au bout de 6 semaines. J'avais été à la torture pendant tout ce temps-là. J'étais sur le point de mettre un terme à mes jours chaque fois que Miss Mills m'apprenait que ma pauvre petite Dora ne répondait, lorsqu'on parlait de moi, qu'en s'écriant
« Oh, mon pauvre papa ! Mon pauvre papa !»
Elle me dit aussi que Dora n'avait d'autres parents que deux tantes, sœurs de M. Spenlow, qui n'étaient pas mariées et qui vivaient à Putney. Depuis de longues années, elles n'avaient que de rares communications avec leurs frères. Ils n'avaient pourtant jamais eu rien ensemble. Mais M. Spenlow les ayant invités seulement à prendre le thé le jour du baptême de Dora, au lieu de les inviter au dîner, comme elles avaient la prétention d'en être, elle lui avait répondu par écrit que, dans l'intérêt des deux parties, elle croyait devoir rester chez elle. Depuis ce jour, leur frère et elle avaient vécu chacun de leur côté. Ces deux dames sortirent pourtant de leur retraite pour venir proposer à Dora d'aller demeurer avec elle à Putney. Dora se suspendit à leur cou en pleurant et en souriant.
« Oh oui, mes bonnes tantes, je vous en prie, emmenez-moi à Putney avec Julia Mills et Jip. »
Elles s'en retournèrent donc ensemble peu de temps après l'enterrement. Je ne sais comment je trouvais le temps d'aller rôder du côté de Putney, mais le fait est que d'une manière ou de l'autre, je me faufilais très souvent dans le voisinage. Miss Mills, pour mieux remplir tous les devoirs de l'amitié, tenait un journal de ce qui se passait chaque jour. Souvent, elle venait me trouver, dans la campagne, pour me le lire ou me le prêter quand elle n'avait pas le temps de me le lire. Avec quel bonheur je parcourais les divers articles de ce registre consciencieux dont voici un échantillon. Lundi. Ma chère Dora est toujours très abattue, violent mal de tête. J'appelle son attention sur la beauté du poil de Jeep. D caresse J. Association d'idées qui ouvre les écluses de la douleur. Torrent de larmes. Les larmes ne sont-elles pas la rosée du cœur? J.M. Mardi. Dora, faible et agitée. Belle dans sa pâleur. Même remarque à faire pour la lune. J.M. D, J.M. et J. sortent en voiture. J. met le nez hors de la portière. Il aboie violemment contre un balayeur. Un léger sourire paraît sur les lèvres de D. Voilà bien les faibles anneaux dont se compose la chaîne de la vie. J.M. Mercredi. D, gai en comparaison des jours précédents. Je lui ai chanté une mélodie touchante, les cloches du soir, qui ne l'ont point calmé, bien au contraire. D, ému au dernier point. Je l'ai trouvé plus tard qui pleurait dans sa chambre. Je lui ai cité des vers où je la comparais à une jeune gazelle. Résultat médiocre. Fait allusion à l'image de la patience sur un tombeau. Question. Pourquoi un tombeau? J.M. Jeudi. D, mieux, certainement. Meilleure nuit, légère teinte rosée sur les joues. Je me suis décidée à prononcer le nom de D.C. Ce nom est encore insinué avec précaution pendant la promenade. D, immédiatement bouleversé. Oh, chère Julia, oh, j'ai été un enfant désobéissant. Je l'apaise par mes caresses. Je fais un tableau idéal de D.C. aux portes du tombeau. D, de nouveau bouleversé. Oh, que faire? Que faire? Emmenez-moi quelque part. Grande alarme. Évanouissement de D. Verre d'eau à portée d'un café. Ressemblance poétique. Une enseigne bigarrée sur la porte du café. La vie humaine aussi est bigarrée, hélas. J.M. Vendredi. Jour plein d'événements. Un homme se présente à la cuisine, porteur d'un sac bleu. Il demande les brodequins qu'une dame a laissés pour qu'on les raccommode. La cuisinière répond qu'elle n'a pas reçu d'ordre. L'homme insiste. La cuisinière se retire pour demander ce qu'il en est. Elle laisse l'homme seul avec Jeep. Au retour de la cuisinière, l'homme insiste encore, puis il se retire. J a disparu. D est au désespoir. On fait avertir la police. L'homme a un gros nez et les jambes en cerceau, comme les arches d'un pont. On cherche dans toutes les directions, pas de J. D pleure amèrement. Elle est inconsolable. Nouvelle allusion à une jeune gazelle, à propos, mais sans effet. Vers le soir, un jeune garçon inconnu se présente. On le fait entrer au salon. Il a un gros nez, mais pas les jambes en cerceau. Il demande une guinée pour un chien qu'il a trouvé. Il refuse de s'expliquer plus clairement. D lui donne la guinée. Il emmène la cuisinière dans une petite maison où elle trouva J attaché au pied de la table. Joie de D qui danse tout autour de J pendant qu'il mange son souper. Enhardi par cet heureux changement, je parle de D.C. quand nous sommes au premier étage. D se remet à sangloter. Oh non, non, c'est si mal de penser à autre chose qu'à mon papa. Elle embrasse J et s'endort en pleurant. D.C. ne doit-il pas se confier aux vastes ailes du temps? J.M. Miss Mills et son journal étaient alors ma seule consolation. Je n'avais d'autres ressources dans mon chagrin que de la voir, elle qui venait de quitter Dora, de retrouver la lettre initiale du doux nom de Dora à chaque ligne de ses pages pleines de sympathie et d'augmenter encore par là ma douleur. Il me semblait que jusqu'alors j'avais vécu dans un château de cartes qui venait de s'écrouler, nous laissant Miss Mills et moi au milieu des ruines. Il me semblait qu'un affreux magicien avait entouré la divinité de mon cœur d'un cercle magique que les ailes du temps, ces ailes qui transportent si loin tant de créatures humaines, pourraient seules m'aider à franchir.